Chapitre 11. La sonnerie du fax arrache à Lucie au monde des songes. Il lui fallut une bonne dizaine de secondes pour comprendre qu'elle s'était endormie assise, la tête rejetée sur le côté, devant les photons crépitants de son écran d'ordinateur. L'horloge digitale indiquait 16h30, 20 minutes d'un sommeil féroce en plein dans l'exercice de ses fonctions. Elle chercha sa salive, le temps de s'apercevoir que les persiennes des bureaux voisins étaient abaissées. Un voile synthétique qui l'avait préservé des regards extérieurs. Combien de temps traverserait-elle les mailles du filet sans se faire pincer? Elle jeta un œil dans le couloir et se rassura à la vue des espaces vides et des bureaux inoccupés. Quelques collègues dans l'open space du fond, mais a priori, personne ne l'avait vue. « Si ça continue, tu vas t'endormir en marchant. » Lucie se faufila jusqu'au bureau de Raviez. Derrière la porte, le fax du capitaine soufflait les premiers résultats de la police scientifique. Après un regard à droite, à gauche, la jeune femme tourna la poignée. Les gonds grincèrent, libérant des rubans olfactifs de tabac. « Si on te surprend ici, tu diras que le fax hurlait par manque de papier. Oui, c'est ça. Le moustachu voulait à tout prix ses rapports en rentrant, alors tu es venu remettre du papier dans la machine. » Gorge serrée, elle s'empara des premiers feuillets confidentiels. Elle hésita un instant, prise de suée tenace, rabattit légèrement la porte et remonta un peu les persiennes. Elle risquait gros à fouler le territoire du capitaine. Mais les truites sont curieuses par nature. L'enquête l'avait ferrée. « Ce n'est pas de la fiction ni l'un de tes bouquins théoriques, idiote. Tu tiens entre les mains le destin volé d'une handicapée. C'est ça qui te fait vibrer ? Tais-toi, laisse-la faire. Elle exerce juste son métier. » Faute de temps, la jeune femme ne s'intéressa qu'aux termes soulignés, aux conclusions de fin de section et annotations manuelles rajoutées après l'impression, laissant de côté le baratin scientifique. Les premières pages, rédigées par Stanislas Novak, le technicien, concernaient l'accident et confirmaient les déductions établies sur place. Les débris de phare n'avaient pas permis d'identifier le type de véhicule. La largeur des traces ainsi que le dessin des pneus, des plus communs, altéraient très peu le large spectre des possibilités. En bref, aux courbes et termes techniques près, énergie cinétique, coefficient de frottement, constance gravitationnelle, une voiture sans ABS, aux pneus moyennement usés, avec le frein arrière droit défectueux, avait percuté un obstacle de façon non intentionnelle, à une vitesse avoisinant les 110 km par heure. Quant à l'analyse du sang sur l'asphalte et des morceaux de chair sur les lunettes, on n'en parlait pas dans ce rapport. Elle cueillit les deux feuillets suivants, les mains moites. Le rapport biologique allait révéler l'aura du meurtre, cette radiance d'éléments invisibles oubliés autour du cadavre. Elle survola le paragraphe traitant des empreintes de pas prélevées dans l'entrepôt. Rien de bien déterminant là non plus. Son oreille frissonnait à chaque sonnerie de téléphone ou élévation de voix portée par les murs du couloir. « Si ça continue, tu vas succomber à une crise cardiaque. Retourne à ton bureau, affronter ta routine. » Le fax vomissait avec une lenteur exagérée ses rectangles de connaissances. Parfois, il s'interrompait et reprenait, la mémoire interne saturée. « Dépêche-toi, bon sang !» Le corps en ébullition, elle pinça la feuille encore chaude, chassa d'un souffle une mèche torsadée et dévora les lignes. On y parlait de poils et d'analyse ADN. Quel poil ? De nombreux termes soulignés, écrits en gras, en italique. Lucie entreprit de lire la page avec plus d'attention. Le tic-tac de sa montre lui porta les nerfs à fleur de peau. Ils allaient débarquer d'un instant à l'autre. Nous avons analysé le poil prélevé par le légiste au fond de l'œsophage de Mélodie Cunard. Le brigadier plissa les paupières. Le terme confidentiel lui rappelait amèrement qu'elle outrepassait ses droits, ce qui mit le feu à sa lecture. La portion de graine à la base, la racine ouverte et le bulbe creux prouvent que ce poil provient d'un être vivant ou décédé sous une cinquantaine de jours. L'examen microscopique a révélé un indice médulaire de 0,54, ce qui est beaucoup trop important pour un être humain. Traité à l'acide nitrique, ont révélé la présence de moelle, séquençage de l'ADN mitochondrial par amplification génétique PCR. L'autoradiographie obtenue a été transmise au département des sciences animales de l'INAPG à Paris. Grâce à leur banque de données génétiques des races animales, ils ont pu mener une étude comparative avec les caryotypes enregistrés. Une porte qui claque, le cœur qui s'emballe. Fausse alerte. Le résultat vient de nous être retourné, voilà à peine une heure, sous son formel à 99,99%. Le poil prélevé au fond de l'œsophage est un poil de canidé, Canis lupus, un poil de loup. Lucie tressauta, remonta le paragraphe pour en réabsorber les vagues d'encre. Avait-elle bien lu ? Un poil de loup avait été prélevé dans la gorge de la fillette. La jeune femme se jeta sur la suite, désormais trop absorbée par sa lecture pour percevoir les claquements de semelles à l'extérieur. La sous-espèce reste à définir. Ce poil a été envoyé au laboratoire de biologie des populations d'altitude de Grenoble qui participe au programme de recensement des espèces de loups, le programme Trace-loup. Réponse pour vendredi. Difficilement expliquer la présence de ce poil, ingestion volontaire ou forcée. Fin de page. Le meilleur restait à venir. Lucie se rongeait les ongles, les doigts avec. Le fax clignotait, les données transitaient sur la ligne dans un murmure électronique. Comment une machine si perfectionnée pouvait-elle être si lente? Cette fois, des éclats de voix s'élevèrent. La cavalerie bleue débarquait. L'appareil déplia sans se presser sa langue blanche. Impossible de rester plus longtemps. La jeune femme pesta et se faufila dans l'embrasure, prenant à peine le temps de rabattre la porte. Puis se jeta sur sa chaise à roulettes, foudroyée par la panique. Trop tard, peut-être. Ses joues brûlaient d'un rouge volcanique au moment où le capitaine Raviez lui pressa l'épaule d'une main ferme.